les podcasts de Radio Vatican.
Alors que les séparatistes envisagent de déclarer unilatéralement l'indépendance de la Catalogne, des dizaines de milliers d'Espagnols sont descendus dans la rue ce week-end pour défendre l'unité de leur pays et appeler au dialogue. La tenue du référendum le 1er octobre, réprimé par la police nationale, a attisé les tensions entre Madrid et Barcelone et les positions n'ont jamais paru autant irréconciliables. Pourtant, l'inquiétude des milieux économiques face à une indépendance semble provoquer le malaise, y compris dans le camp séparatiste. Les 5 et 6 octobre derniers, les principales banques catalanes ont annoncé déménager leur siège social en raison de la situation politique et sociale actuelle. Certains indépendantistes catalans auraient-ils sous-estimé l'ampleur de la crise qu'ils ont provoquée en organisant le référendum ? L'éclairage d'Hubert Pérez, spécialiste de la politique espagnole à l'Université de Montpellier.
Il s'est passé effectivement quelque chose de très intéressant. Depuis des mois et des mois, des années, les indépendantistes vendent un petit peu du rêve en disant en gros à la population catalane l'indépendance ne peut nous apporter que des bienfaits, on paiera moins pour le reste de l'Espagne, on sera maître de notre sort et en même temps on continuera à être européen et il n'y aura pas de conséquences économiques parce que l'économie est aujourd'hui mondialisée. En pariant sur le fait que l'Union européenne finalement ne pourrait pas ne pas considérer la Catalogne comme un membre à part entière même si elle devenait indépendante et que économiquement la Catalogne étant la région d'Espagne avec le Pays Basque la plus dynamique et Madrid aujourd'hui, il n'y aurait pas de conséquences économiques. Et d'une certaine manière, les milieux économiques avaient avalisé cette position parce que beaucoup de dirigeants ne croyaient pas finalement à l'hypothèse de l'indépendance. Ils pensaient que, in fine, c'était un bras de fer qui allait se traduire par un accord avec Madrid, donc il y aurait peut-être encore un accroissement de l'autonomie, et que les choses ne se passeraient pas de cette façon. Assez curieusement, et c'est intéressant du point de vue médiatique, les images de violence que l'on a vues le jour du référendum ont provoqué une sorte de traumatisme. Alors immédiatement, ça a déclenché une vague de sympathie sur le thème « on réprime des gens qui vont aller voter », mais en même temps, ça fait retomber sur terre un certain nombre de gens en Europe et dans les milieux économiques catalans qui ont réalisé que tout d'un coup, oui, la crise est très grave. Et que depuis l'Europe, on a vu se multiplier les voix disant « mais non, pas du tout, si la Catalogne fait sécession sans accord avec l'Espagne, elle ne pourra pas être immédiatement européenne et donc elle sortira de l'Union européenne. Et pour y rentrer, ce ne sera pas facile parce qu'il faudra l'unanimité des États membres actuels. » Et du coup, les milieux économiques eux-mêmes se sont mis à réaliser également, et la bourse les a aidés, que oui, l'indépendance, acquise dans ces conditions, pouvait entraîner des difficultés très importantes. Ce sont les banques qui vont d'abord souffrir. Et par contre-coup, finalement, un certain nombre d'entreprises, de banques ont décidé de partir. On voit une inquiétude se généraliser aujourd'hui. Et du coup, également, dans les milieux indépendantistes, les plus modérés se disent on a peut-être été extrêmement optimiste en imaginant que l'indépendance acquise dans ces conditions n'aurait aucune conséquence économique. Et c'est pourquoi il y a, à l'heure actuelle, sans doute une hésitation extrêmement importante pour savoir si le camp indépendantiste doit aller jusqu'au bout et déclarer unilatéralement l'indépendance, ce dont on parle ou on suppose que Carlos Puigdemont pourrait faire au Parlement catalan mardi prochain.
Oui, on sent que le doute s'installe chez certains indépendantistes, mais comment expliquez-vous cet endormissement, entre guillemets, pourrait-on dire, de nombreux indépendantistes qui aujourd'hui découvrent que la situation est beaucoup plus compliquée? Est-ce que c'est lié à l'activisme de Carlos Puigdemont et des plus déterminés à avoir cette indépendance à l'intérieur même du camp indépendantiste? Aujourd'hui, il y a une recomposition, pourrait-on dire?
Ce qui se passe depuis 5 ans maintenant, depuis 2012, est quand même très très étonnant, puisque si le camp indépendantiste a pris cette porte, c'est parce que le parti traditionnel, au moins depuis les débuts de la démocratie espagnole, de la bourgeoisie catalane, qui est autonomiste en partie, indépendantiste pour une autre partie, s'est finalement rallié aux positions les plus radicales. Qui ne lui a pas fait de bien du point de vue électoral, puisque du coup, c'est une force. Cette force s'appelait Convergence démocratique de Catalogne, c'est aujourd'hui le Parti démocratique de Catalogne, puis président de la Généralité actuelle, Carlos Puigdemont. Ils sont en train de perdre des plumes électorales, mais ils sont engagés dans une sorte de fuite en avant. Donc maintenant, pour rattraper la chose, il faut qu'ils deviennent indépendants. Et il y a une passion indépendantiste. La passion fait toujours minimiser les difficultés qu'il peut y avoir si on n'a arrive effectivement à l'indépendance. Et puis, il y a, dans l'opinion catalane, quelque chose que l'on ne retrouve pas chez les peuples qui sont aussi dans l'Union européenne et qui sont très nationalistes. C'est un nationalisme qui, en même temps, est très pro-européen. Et beaucoup de gens qui soutiennent l'indépendantisme catalan disent « Mais on ne comprend pas pourquoi l'Europe ne voudrait pas de nous. Nous, nous sommes européens, nous, nous voulons de l'Europe. Pourquoi l'Europe ne voudrait pas de nous ?» De la même manière, nous sommes pour une économie ouverte, nous sommes pour une économie européanisée et mondialisée. On ne voit pas très bien pourquoi on serait l'objet de difficultés économiques, puisque nous n'avons nulle part l'intention de nous refermer. Tout le monde a minimisé les contraintes institutionnelles, c'est-à-dire que l'Europe ne peut effectivement pas, en fonction de ces tests, accepter une déclaration unilatérale d'indépendance, parce que c'est un club d'États, et l'Europe n'intervient pas dans les matières souveraines d'un État. Donc, oui, je pense que les indépendantistes sont considérablement sous-estimés, pour les plus modérés d'entre eux, les difficultés qu'il pouvait y avoir. Et une partie du clan indépendantiste s'en moque éperdument, puisque au fond, si les indépendantistes sont aujourd'hui majoritaires, parce qu'il y a une alliance idéologique extrêmement étrange, enfin, de l'extérieur, entre le centre-droit de la bourgeoisie catalane et puis un parti d'extrême-gauche, les candidatures d'unité populaire, qui eux sont des anticapitalistes et qui au fond n'en ont rien à faire, hein, qu'il y ait le départ des grandes entreprises capitalistes et que la question de l'appartenance européenne soit posée, parce qu'ils militent pour un modèle de société qui est radicalement différent.
Un mot, Hubert Pérez, sur Mariano Rajoy. Il avait été très critiqué au début de cette crise par son opposition, bien sûr, fragilisé même par son intransigeance. Est-ce que Mariano Rajoy, finalement, n'est pas en train de gagner ce bras de fer aujourd'hui, alors qu'il y a encore quelques semaines, il était très, très affaibli?
Oui, immédiatement, on peut le dire. C'est-à-dire que personne au niveau européen ne peut se désolidariser parce que l'interlocuteur espagnol de l'Union européenne, c'est Mariano Rajoy, il n'y a personne d'autre. Parce que à l'intérieur, les voix discordantes, par exemple du Parti socialiste, ils ne peuvent pas se désolidariser. Lorsque vous avez deux forces qui sont complètement antagoniques, chacun est obligé de choisir son camp. Et donc, à l'intérieur même de l'opposition espagnole, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette section catalane, et il y en a beaucoup au sein du Parti socialiste, ils sont aujourd'hui obligés de soutenir Rajoy. Je ne suis pas sûr qu'à plus long terme, cette espèce de renforcement de la position de Rajoy, elle soit là, parce qu'on peut lui reprocher depuis des mois et des années de n'avoir absolument rien fait, lui non plus, pour gérer cette crise. Si les indépendantistes ont rêvé en croyant que tout allait bien se passer avec l'Europe et les milieux économiques, Rajoy a, au fond, a dit à plusieurs reprises qu'il n'y aura pas de référendum. Il a sous-estimé considérablement la stratégie indépendantiste et le soutien que les indépendantistes recueillent au sein de la population catalane, qui est réel, même si c'est probablement aujourd'hui un soutien minoritaire. Et donc ça, il y aura des comptes qui se régleront sans doute un tout petit peu plus tard.
Est-ce que finalement une réforme constitutionnelle en Espagne, où la Catalogne aurait plus d'autonomie, est une manière de sortir de cette crise par le haut? Est-ce que c'est envisageable?
C'est une possibilité. En tout cas, c'est la stratégie qui est avancée par le leader du Parti socialiste, Pedro Sánchez. C'est aussi une stratégie qui aurait l'aval de l'extrême-gauche de Podemos à l'échelle nationale, ce qui est une possibilité. Mais il y a des voix très discordantes. Alors évidemment, au sein du Parti populaire, on est tout à fait contre, mais même au sein du Parti socialiste, on a beaucoup de gens qui sont tout à fait contre, de nouveau, donner davantage de poids à la Catalogne, voire d'introduire dans la Constitution la possibilité de référendum d'autodétermination. Mais c'est évidemment une solution possible de la crise. Moi, j'ai quand même l'impression que à Madrid, aussi bien dans les rangs du Parti socialiste que auprès de Mariano Rajoy, on compte plutôt sur le fait que de nouvelles élections en Catalogne qui auront lieu tôt ou tard renverseraient la majorité indépendantiste, qui, il faut le rappeler, est très fragile parce qu'ils ont obtenu 48% des voix aux élections de 2015. Il y a en gros deux sorties de crise, oui, une sorte de négociation qui pourrait aboutir à une réforme de la Constitution qui rencontrerait beaucoup d'opposition aujourd'hui, et puis peut-être l'affaiblissement, au contraire, du camp indépendantiste en Catalogne, qui pourrait rendre les choses un tout petit peu plus faciles pour le gouvernement de Madrid.
Si on prend un peu de hauteur, on va dire, sur cette crise, je voulais savoir un peu ce qu'elle révélait de la transformation de la vie politique pour les Espagnols. Est-ce que il y a quelque chose vraiment de nouveau en termes de vitalité démocratique dans les débats en Espagne aujourd'hui avec cette crise?
Ce que ça parallèle, c'est que le compromis sur lequel reposait la mise en place de la démocratie espagnole après la mort de Franco et la constitution espagnole, ce compromis consistant à dire, eh bien, entre les partisans de l'État unitaire centralisé très fort et ceux qui ont des velléités d'indépendance, on fait un compromis avec ce qu'on appelle l'État des autonomies, avec une très très large décentralisation. Alors ce compromis, il a été déjà remis en question à plusieurs reprises avec des demandes de la part du Pays Basque et de la Catalogne d'acquérir toujours un petit peu plus d'autonomie. Donc le système a changé beaucoup depuis 1980, mais on voit que ce système, il éclate aujourd'hui. Il n'arrive plus à contenir en fait les aspirations sécessionnistes, largement sous le coup de la crise économique qui a activé la pression indépendantiste en Catalogne, et qu'il devient très difficile de continuer à gérer un système dans lequel vous avez des revendications identitaires qui sont incompatibles. En même temps, c'est très difficile à résoudre d'une manière radicale. Pourquoi ? Parce que du point de vue identitaire, et ça on le sait depuis très longtemps, vous avez finalement en Espagne des gens qui se sentent uniquement espagnols, qui se sentent à la fois catalans et espagnols, espagnols et basques, etc. Et des gens qui se sentent exclusivement basques ou espagnols. Et donc la solution de l'État unitaire ou la solution de l'indépendance, c'est une solution dichotomique. On est soit l'un, soit l'autre. La réalité identitaire en Espagne, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et la formule de l'État des autonomies, elle était destinée à permettre à cette complexité identitaire de s'exprimer. Et c'est un modèle qui est aujourd'hui remis en question, qui souffre. Mais en même temps, il reste cette réalité que les Espagnols ne sont pas partagés en deux, mais en gros en trois. Trois manières de se définir, à la fois espagnol, catalan ou basque, et exclusivement basque ou exclusivement catalan.
Est-ce que on pourrait dire aussi que cette crise catalane est un peu un problème de riches? On sait que c'est la région la plus prospère, presque 20% du PIB. Il y a d'autres velléités indépendantistes européens, même si la nature est différente. Je pense par exemple à la Ligue du Nord en Italie, qui est aussi la région la plus prospère, même si ils sont très anti-européens, et vous l'avez dit, les Catalans ne le sont pas. Mais est-ce que on pourrait dire aussi que finalement cette crise catalane est aussi une rébellion des riches, quoi, tout simplement, et du coup les autres Espagnols finalement le voient d'un œil très différent, quoi.
Absolument, et là, c'est un réflexe entre guillemets de riches. Beaucoup de Catalans sont persuadés que s'ils ont vécu les difficultés de la crise, bon, c'est d'une part parce qu'ils pensent que la crise a été mal gérée par Madrid, et d'autre part parce qu'une partie de leur richesse s'en va pour soutenir les autres régions d'Espagne avec des mécanismes de solidarité territoriale qu'on supporte d'autant moins que l'on ne se sent pas espagnol. C'est bien ça le problème. Si on faisait la même chose en France, on verrait effectivement que la région parisienne, elle subventionne très largement l'ensemble des régions françaises. Mais il n'y a pas d'opposition entre l'identité d'Île-de-France et l'identité française. Au contraire, l'Île-de-France est le cœur de l'identité française. Et donc, lorsqu'il y a une crispation identitaire et que, par ailleurs, on a l'impression que son argent sert à d'autres, eh bien, ça provoque le type de réaction que ça provoque au Catalogne. C'est évidemment une dimension très très forte de cette crise.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.